Bonjour, je suis responsable du pôle développement économique de la gamme et j'ai travaillé, j'ai animé des démarches d'études depuis 3 ans sur l'impact des usages numériques, télétravail, commerce, sur la ville. On m'a demandé aujourd'hui de poser des hypothèses sur la baisse de déplacement liée au motif achat. Alors, c'est vrai que les hypothèses liées aux usages numériques, elles peuvent être nombreuses, notamment en termes de e-commerce. Je vais faire assez synthétique. Alors, on a déjà une tendance qui existait déjà, qui n'a rien à voir avec le e-commerce, qui existait déjà depuis la fin des années 90, début des années 2000, qui était celle de l'évolution de la mixité fonctionnelle au sein des zones commerciales, c'est-à-dire qu'on commençait à avoir de moins en moins, à côté du commerce, se développer d'autres choses, notamment des loisirs, par exemple, les zones commerciales de périphérie qui étaient des gros attracteurs en termes de mobilité et qui le sont toujours. On se déplaçait moins pour le motif achat que pour un autre motif associé, celui d'aller au cinéma, celui de faire du sport, celui d'accéder peut-être à d'autres loisirs, notamment culturels, etc. Donc ça peut expliquer aussi ici un transfert de mode, un transfert de motif entre la consommation et le loisir. Bon, ça, évidemment, vous comprendrez que c'est totalement marginal dans l'évolution, dans l'explication de la baisse des déplacements pour le motif achat, parce que la décennie 2010, hein, qui est la décennie qu'on est en train d'analyser, a connu une révolution majeure en matière de mode de distribution et de mode de consommation. C'est celle du e-commerce, évidemment. Le e-commerce, en 2011-2012, on était entre 2-3% de part de marché. Aujourd'hui, on est à 15% de part de marché, c'est considérable. Donc on a connu une évolution assez constante tout au long de la décennie 2010, avec une accélération extrêmement forte qui continue aujourd'hui depuis la crise sanitaire. Quelles ont été un peu les conséquences de ça? Alors évidemment, on peut déjà supposer qu'on a une conséquence directe sur la baisse des déplacements, on ne se déplace plus, on consomme de son canapé, on consomme de chez soi, on consomme de son smartphone beaucoup. Je rappelle que le taux d'équipement smartphone de la population française, c'est à peu près 2017-2018, on est à 99% d'équipement de smartphone. Donc on comprend pourquoi la décennie 2010 aussi a connu une augmentation fulgurante du e-commerce. C'est aussi le taux d'équipement en appareil qui a permis cela, et évidemment le réseau qui s'est largement développé sur cette période-là. L'arrivée de pure players, très important aussi, qui ont trusté une grande partie du marché, notamment de l'équipement de la maison. On ne va pas rentrer dans le détail. Alors, les pure players, c'est Amazon, c'est Azos, c'est Zalando, vous connaissez. Et aussi des enseignes qui ont engagé à partir du milieu, un peu tardivement d'ailleurs, des années 2010, leur transition numérique, c'est-à-dire qu'elles ont développé une interface e-commerce de plus en plus performante, avec le développement au milieu des années 2010 de ce qu'on a appelé le click and collect, donc qui génère du déplacement. Effectivement, malheureusement, on a du mal à le mesurer. Les pure players génèrent assez peu de déplacements dans le sens où ils peuvent avoir un toit relais, effectivement, mais pour l'équipement de la maison, on est souvent livré chez soi. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas trop analysées, qui n'est pas trop analysées dans l'enquête ménage et placement, mais qui ont un impact, en tout cas, sur le déplacement du consommateur lui-même, sur le point, dans le lieu de vente. La première thématique impactée par le e-commerce, c'est évidemment, depuis les années 2010, l'équipement de la maison. Alors je rappelle que l'équipement de la maison, c'est en grande partie les zones commerciales de périphérie qui sont concernées, celles qui génèrent depuis des décennies le plus de déplacements, et surtout les plus longs déplacements, comme Corbeil par exemple, la Valentine, etc. Donc là, on est sur une thématique commerciale qui aujourd'hui atteint, en termes de part de marché e-commerce, entre 20 et 25% à l'échelle métropolitaine. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, un acte d'achat sur 4 est réalisé sur Internet. Voilà. Après, un autre motif qui aussi a quand même beaucoup concerné à partir des années 2000, les grandes zones de périphérie qui ont eu tendance à se diversifier en termes d'offres commerciales pour pérenniser l'achalandise, c'est l'équipement de la personne. On voit depuis à peu près la fin des années 2010 et surtout depuis le Covid à quel point l'équipement de la personne sur le e-commerce a gagné le marché, enfin s'est largement développé sur le marché de l'équipement de la personne, ce qui explique ce qu'on voit aujourd'hui en matière de difficultés du commerce physique hein, de ce côté-là. Et nouveauté, c'est l'alimentaire. L'alimentaire a gagné 150% de part, le e-commerce a gagné 150% de part de marché en alimentaire depuis la crise sanitaire. Bon, en volume, ça reste marginal quand même. Mais l'alimentaire, on a connu deux phénomènes, et je vais passer rapidement. L'augmentation du e-commerce sur, je veux dire, l'alimentaire, dans les pratiques d'achat des familles, dans les pratiques d'achat qui sont le plus liées aux pratiques d'achat des hypermarchés, par exemple, hein, les grosses courses, etc. L'alimentaire de proximité, lui, s'est renforcé de manière physique. Donc, on a deux phénomènes. Et effectivement, le motif pour les déplacements, on peut avoir, mais on ne le voit pas ici, des transferts de motifs de déplacement de la grande distribution pour faire rapide à la proximité. Donc là, on a quand même un phénomène très fort qui peut expliquer, effectivement, cette baisse des déplacements liés au e-commerce et à la dématérialisation des lieux de vente. Voilà. Alors, on a eu d'autres phénomènes, hein, les plateformes de livraison, par exemple, qui elles aussi génèrent du déplacement, un déplacement logistique. Pour finir, je dirais que c'est quand même assez intéressant de voir à quel point les paradigmes en matière d'urbanisme commercial ont totalement été bousculés pendant cette période, depuis des décennies, avant la décennie 2010. La question, c'était la maîtrise ou le conditionnement des surfaces de vente. Hein. Donc, ça, tous ceux qui font de l'urbanisme commercial connaissent ça. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur une question de maîtrise des surfaces logistiques. En fait, on a un glissement de la surface de vente à l'espace logistique. Ça se traduit clairement aussi par le fait que de plus en plus d'enseignes et de magasins en périphérie consacrent de moins en moins d'espace de vente, enfin de leur surface à la surface de vente, et de plus en plus à des espaces d'entreposage et de logistique, notamment pour assurer le click and collect. Voilà.
Merci Laurent.
Merci. Oui, donc Aurélie Bachou, je travaille à la Métropole, chargée de mission donc en urbanisme commercial, et également donc en charge de l'élaboration et du suivi du schéma directeur d'urbanisme commercial qui a été donc délibéré en Conseil métropolitain en octobre 2022. Donc effectivement, toutes ces questions effectivement de mutation, de quelle évolution, notamment des zones commerciales périphériques. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai voulu moi un petit peu insister sur les centres commerciaux plutôt périphériques. Quelles sont leurs mutations donc effectivement, à l'heure, dans un contexte où on parle du zéro artificialisation nette, on parle du vieillissement de nos zones commerciales métropolitaines, on parle aussi effectivement de la fin hein, du gigantisme, de la course à ces mètres carrés, du gigantisme de tous ces centres commerciaux. Effectivement, on voit qu'il y a un recul hein, de replace dans ces centres commerciaux en périphérie depuis 2018. De l'essor, alors ça c'est un point aussi important qu'on ne va pas forcément développer aujourd'hui, mais de l'essor de ces centres commerciaux en entrée de ville. Effectivement, qui proposent d'ailleurs plutôt une offre commerciale de quotidienneté, de proximité. Et effectivement, donc du coup, les premiers éléments de constat que l'on a pu observer avec donc, l'enquête ménage de 2019-2020, c'est qu'on voit qu'effectivement, les centres commerciaux qui sont situés en périphérie sont ceux qui génèrent le plus d'émissions carbone. Et effectivement, on voit les centres drive-in qui n'étaient pas présents dans l'enquête 2009. Et qui sont souvent en fait des entrepôts qui sont accolés à des supermarchés. C'est vrai que maintenant j'ai l'habitude de dire qu'on va plutôt gérer, pour rebondir sur ce que disait Laurent, on va plutôt gérer des surfaces de plancher d'entrepôts de logistique commerciale plus que de la surface de vente. Donc là il y a un vrai paradigme dans nos métiers, dans la gestion notamment de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Donc effectivement, cette slide, on a voulu, donc avec Stéphanie, se concentrer sur nos plus grandes zones commerciales dites de périphérie. On constate qu'il y a toujours une très très forte par modal de la voiture, hein, dans ces zones commerciales, tout motif, alors là c'est tout motif de déplacement, que ce soit de l'achat, du motif loisir ou du motif travail, donc la voiture est toujours la part modale la plus conséquente. Malgré tout, et comme ça a été cité à de nombreuses reprises, on observe quand même une baisse de déplacement, alors qui varie entre 7 et 25% de déplacement en fonction en tout cas de ces quatre grandes zones, hein, qui génèrent également nous le plus grand nombre de chiffres d'affaires sur la métropole. Et on distingue effectivement une augmentation du motif loisir qui est assez conséquente dans l'ensemble de ces zones, donc au détriment du motif achat. Donc on voit vraiment les mutations effectivement de ces zones dans leur fonction, dans leur fonctionnalité économique, voire dans leur fonctionnalité. Donc effectivement, plan de campagne, on peut faire rapidement des petits zooms. Hein. Plan de campagne, c'est donc 95% des déplacements se font toujours en voiture. Il y a très très peu de changements entre 2009 et 2019. Mais il y a quand même une perte de 13 points pour le motif achat au détriment, ou en tout cas au bénéfice du motif loisir, qui lui a gagné 5 points de déplacement sur plan de campagne. La Martel, on voit pour le coup qu'on est passé de 91% du déplacement en voiture à 84% en 2019. Donc on a perdu 7 points en déplacement en voiture au profit du transport en commun et notamment du chronobus. Donc là, pour le coup, on voit quand même une évolution sur la Martel à Aubagne. On a également fait un petit point sur la Valentine, effectivement, où on est sur une part modale de la voiture qui a légèrement baissé, alors qu'effectivement, on est quand même sur une zone commerciale qui est malgré tout un peu plus intégrée dans l'urbain dense que les deux premières cités. Donc en tout cas, à retenir, c'est qu'on voit qu'il y a une baisse de déplacement malgré tout sur l'ensemble des zones commerciales périphériques. Par contre, on voit qu'il y a une augmentation des déplacements pour les zones commerciales qui sont vraiment intégrées dans l'urbain dense, telles que, c'est ce qu'on a mis là, voilà, Grand Littoral, Marseille-Centre, bien entendu. Voilà, donc ça c'était un point intéressant à retenir. Et pour conclure, effectivement, je pense qu'on a encore peut-être des pistes de recherche sur lesquelles on peut travailler ensemble avec les agences notamment, effectivement sur le poids dans les déplacements du quotidien, sur le rôle des zones commerciales en entrée de ville. Voilà, c'est un point qui pour nous semble assez important. Et par ailleurs, donc on travaille également avec, dans le cadre du SCOT, sur le fameux document d'aménagement artisanal et commercial et logistique commerciale, hein, qui est vraiment une nouveauté avec la loi climat, sur effectivement cette régularisation des mètres carrés commerciaux.
Merci.